Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Métropolez-vous, l'émission que nous vous proposons chaque semaine pour vous tenir informés de l'actualité de Toulouse Métropole. Beaucoup d'entre vous ont dû profiter du temps quasi estival du week-end dernier pour se promener sur les rives de la Garonne ou le long des canaux de la métropole toulousaine. Le printemps donne des envies de flânerie au bord de l'eau et nous avons la chance d'avoir de nombreux lieux pour ça sur notre territoire. Des lieux qui sont l'objet de toutes les attentions à travers deux projets métropolitains pour les mettre en valeur et les rendre plus accessibles. Le Grand Parc Garonne, en cours depuis quelques années avec des chantiers emblématiques tels que l'aménagement de l'île du Ramier. Plus récemment a été lancé le projet du Grand Parc Canal, sa première étape ayant consisté en l'ouverture du chantier du Parvis Brienne, qui se trouve à proximité du canal du même nom et que nous avions présenté dans cette émission au début de l'automne. Le projet du Grand Parc Canal va nécessiter ce que l'on appelle des aménagements tactiques à plusieurs endroits de ce vaste chantier pendant toute sa durée. Ce numéro leur est aujourd'hui consacré. Et pour nous présenter les aménagements tactiques du Grand Parc Canal et pour nous parler de ce projet en général, je reçois François Cholet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole pour l'écologie, le développement durable et la transition énergétique. Bonjour monsieur le vice-président, bienvenue à vous aussi.
Bonjour.
Petit voire grand rappel pour commencer, en quoi consiste le Grand Parc Canal? Quels canaux concerne-t-il précisément et quels sont les objectifs généraux de ce projet?
Alors c'est en fait trois canaux. C'est le canal du Midi, le canal de Brienne, le canal de Garonne. C'est un linéaire d'une trentaine de kilomètres de voies d'eau. Et puis c'est quatre communes. Il y a la partie toulousaine, mais il y a aussi Saint-Jory, Lespinasse et Fenouillet qui sont concernés. Le canal du Midi est inscrit depuis 1996 au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un joyau patrimonial de notre territoire. Donc là, nous sommes dans la dynamique des cinq grands parcs métropolitains, c'est l'un d'entre eux, à côté du Grand Parc Garonne, du Grand Parc de l'Est, du Grand Parc du Touche, de la Margelle. Et le but, c'est effectivement de développer cette trame verte et bleue, c'est d'épaissir le végétal, c'est de protéger, de dynamiser les paysages, de réfléchir aux usages aussi, c'est de favoriser la nature et la biodiversité, c'est aussi de repenser les déplacements. Et puis de mettre en valeur, quelque part, tous ces éléments patrimoniaux qui jalonnent le linéaire du canal. Et puis, disons-le aussi, c'est un moyen de rapprocher les quartiers, c'est aussi une réflexion sur une activité économique, touristique, mais pas que forcément, possiblement plutôt, et qui pourrait être attenante à ce projet.
Activité touristique, activité de loisir hein, aussi, hein, tout ça.
Activité touristique, activité de loisir et activité économique au sens du transport initialement.
De marchandises.
Voilà, nous réfléchissons actuellement à cette possibilité de régénérer quelque part une activité économique de transport décarbonée sur le site toulousain.
On en vient au contexte et aux enjeux de ce projet Grand Parc Canal au sein de la métropole toulousaine. Quels sont-ils?
Alors, c'est évidemment de mettre en valeur cette particularité qui est propre à Toulouse. Le site toulousain, c'est aussi des complémentarités, c'est l'intérêt touristique environnemental n'est pas tout à fait le même au centre-ville de Toulouse qu'il l'est à Saint-Jory et à Lespinasse et à Fenouillet. Nous sommes dans des sites différents et qui vont amener le promeneur, l'usager, à découvrir et à se déplacer sur des sites très différents. Donc il y a un enjeu d'ensemble qui est un projet qui va se développer sur plusieurs mandats. Nous sommes finalement au début de l'histoire.
Oui, parce que c'est un projet de longue haleine, hein, et un chantier de longue haleine.
Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites pendant ce mandat qui se terminera l'année prochaine, mais je pense que le mandat suivant, les mandats suivants vont poursuivre ce travail.
Peut-être une chose aussi, vous avez évoqué le Grand Parc Garonne. Oui. Est-ce qu'il y a des connexions entre ces deux projets, projet Grand Parc Canal et projet Grand Parc Garonne? Des interactions, mais même des complémentarités.
Ah oui, il y a, disons, deux sites particuliers. D'abord, c'est le parvis de Brienne, où il y a la jonction entre le canal de Brienne et la Garonne. Ça, c'est une première latérale, j'allais dire. Et puis, il y a le bassin des filtres, pour lequel nous allons développer, ce sera dans le cadre du prochain mandat, mais en partenariat avec VNF, un projet qui est très spécifique est très vert. Ça, c'est les deux points communs entre le Grand Parc Garonne et le Grand Parc Canal, mais il y a aussi, avec les autres grands parcs, par exemple, dans le nord de Toulouse, il existe une communauté entre le Grand Parc Garonne, le Grand Parc Canal, et puis aussi le Grand Parc de l'Hers, qui n'est pas très loin, avec des transversales qui sont développées actuellement.
Ah, vous avez évoqué les voies navigables de France, VNF, c'est le principal partenaire de ce projet. C'est avec eux que vous travaillez en collaboration étroite.
Ah, c'est clair, c'est un partenaire essentiel. Ils ont la responsabilité des voies d'eau. C'est avec eux que nous construisons ce projet. Les choses se passent bien d'ailleurs, avec la compétence qui est la leur, qui est indispensable parce que ce sont eux qui connaissent les aspects techniques de la gestion des voies fluviales, qui s'occupent des berges, qui s'occupent des platanes aussi, qui sont quand même menacés actuellement avec le chancre coloré. Et donc, c'est un partenaire essentiel.
Alors, il y a une paysagiste, d'ailleurs de grande renommée et même de notoriété internationale, qui supervise l'ensemble du projet du point de vue paysager, justement.
Alors justement, Jean-Luc Moudenc a fait le choix de choisir une paysagiste, pas une urbaniste. Pour ce projet, ça veut dire que le paysage dans le projet a une place majeure, le visuel, la profondeur, les perspectives, tout ça, c'est des choses qui sont des éléments importants. Alors effectivement, la maîtrise d'œuvre est assurée par Jacqueline Osti. Vous avez dit qu'effectivement, c'est une paysagiste de renom.
Elle a reçu le Grand Prix national du paysage en 2005 et en 2018, et elle a eu aussi le Grand Prix de l'urbanisme en 2020.
Exactement.
Donc elle connaît très bien les deux aspects.
Elle connaît les deux aspects parfaitement, et elle amène ces éléments techniques, et c'est une technique artistique aussi. Il y a là une créativité derrière son apport dans ce projet qui est fondamental.
Vous avez évoqué le parvis Brienne, j'ai rappelé dans mon introduction que c'était la première étape du Grand Parc Canal, le chantier a été lancé là, il n'y a même pas un an, hein. Il est en cours, mais il y a 8 autres sites qui ont été identifiés pour faire l'objet d'un réaménagement sur l'ensemble du projet Grand Parc Canal.
Alors effectivement, on est toujours dans la première étape, mais au-delà du parvis de Brienne qui est aménagé de façon définitive, on a choisi sur d'autres sites, tout au long du linéaire de ce canal, de développer des projets, disons en trois parties finalement. Hein. La partie plutôt est de Toulouse, Griffoul-d'Orval, les cales de Radoub, avec la création d'une promenade de 2 km autour, la création d'une piste cyclable également. Puis après, il y a le port de l'embouchure et le bassin des filtres qui vont être réaménagés. Et puis ensuite, l'écluse de Fonouillé, le lac du Bocage, l'écluse de l'Espinasse et celle de Saint-Jury sur la partie haute, la partie canal latéral, qui seront aménagés de façon parallèle. Tout ceci va se faire à partir de maintenant. Les travaux commenceront au 15 avril jusque, disons, à la fin de l'année, puisqu'on fait les plantations à la fin de l'année.
Autre site, je crois qu'on ne l'a pas cité, il y a le Port Saint-Sauveur aussi qui est concerné.
Alors, Port Saint-Sauveur, ça fait partie effectivement c'est à proximité des cales de Radoub. Je le mettais dans ce pôle est de Toulouse. Effectivement, le Port Saint-Sauveur va être réaménagé, fait partie de cette boucle de promenade de 2 km qui sera de part et d'autre du canal mis en place dans le courant de cette année.
Alors, ce qui est prévu aussi hein, tout au long du chantier, c'est des haltes de restauration, des espaces d'animation hein, sur certains lieux en tout cas.
Alors c'est vrai qu'il y a la question des usages amène effectivement à diversifier les choses. Donc on réfléchit effectivement avec VNF à d'abord une disposition des bateaux, des amarres, c'est ce qu'on appelle le plan d'occupation du plan d'eau. Ce plan d'occupation du plan d'eau nous amène effectivement à imaginer des points à la fois d'animation mais aussi de restauration.
Bien, merci pour tous ces rappels qui donnent une idée de l'ampleur de ce projet et de ses objectifs. Et puis ça plante le décor. Dans quelques minutes, nous allons présenter à nos auditeurs ces fameux aménagements tactiques que nécessite le chantier. Dans l'immédiat, c'est l'actualité métropolitaine qui va nous intéresser puisque nous allons écouter, comme d'habitude, le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Métropole et vous, l'actu.
Une actualité marquée par les soubresauts qui se poursuivent partout dans le monde après l'annonce de Donald Trump de taxer les exportations européennes de 20% vers les États-Unis. C'est tout le secteur aéronautique qui est aujourd'hui inquiet. Une décision qui impacte directement le constructeur Airbus à Toulouse et ses sous-traitants. Un cinquième des exportations de la France vers les États-Unis est lié à l'aéronautique. Au total, la France a exporté pour 9 milliards d'euros de biens de la catégorie aéronef et engins engins spatiaux aux États-Unis en 2024. Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, et Philippe Tabarot, ministre chargé des transports, étaient justement à Toulouse vendredi, à l'usine Airbus, pour évoquer le sujet. Seule ouverture possible pour l'heure, les installations et productions d'Airbus déjà implantées aux États-Unis. L'ensemble des filières doivent être reçues à Bercy cette semaine pour trouver des solutions. La collecte des encombrants évolue dans l'agglomération de Toulouse. Depuis le 1er avril, les habitants de Toulouse Métropole doivent obligatoirement prendre rendez-vous en ligne pour bénéficier du service toujours gratuit de collecte des encombrants, un changement qui vise à harmoniser et optimiser la gestion des déchets volumineux. Jusqu'à présent, la collecte des encombrants était accessible sans formalité préalable. Les objets acceptés doivent être déposés la veille au soir durant rendez-vous à partir de 20h, sous peine de ne pas être collecté. Tout dépôt sauvage, y compris ceux ne respectant pas les consignes de collecte, sont sanctionnés d'une amende allant jusqu'à 1 500 €. La jonction des viaducs de la ligne C et de la ligne B a eu lieu lundi dernier au sud-est de Toulouse. L'ouvrage aérien de la ligne C, long de 5 km, et celui de la ligne B, long de 2,2 km, se rencontrent au niveau de la future station Labège Madron. Elle deviendra la plus grande station aérienne de l'agglomération. Pour cette jonction des deux viaducs, deux personnalités du monde du rugby toulousain étaient présentes. William Servat, ancien joueur du Stade toulousain, aujourd'hui entraîneur des avants de l'équipe de France, mais aussi Guillaume Gramont, à l'honneur du stade. Ils ont pu échanger des ballons sur le viaduc, l'Ovalie jusque dans le métro. Finissons avec du sport et le parcours de la boucle du Tour de France autour de Toulouse qui a été dévoilé 100 jours tout juste avant le départ du Tour de Lille le 5 juillet prochain. Pour la toute première fois, les différents participants partiront et reviendront à Toulouse, soit 154 km de course autour de la ville rose. Et départ prévu du parvis du Stadium, direction le Pont Saint-Michel, direction Bozelle et Seille. Pour cette 11e étape, les coureurs s'élanceront dans la campagne occitane et passeront par Aussonne, Grenade, puis Fronton, Castelmaurou, Lanta, la Bastide-Beauvoir, puis Vigoulet-Auzy, puis un retour à Toulouse avec une belle montée jusqu'à Pêche-d'Aville, puis le Grand Rond, allée François Verdier, boulevard Lazare Carnot, et enfin l'arrivée à Campense Caffarelli. Rendez-vous le 16 juillet.
Voilà, c'était le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Merci beaucoup Corinne pour ce panorama de l'information métropolitaine. Alors François Chollet, il y a beaucoup de choses là-dedans, je suppose que vous voulez réagir peut-être à quelques informations. Alors une bonne nouvelle, hein, la jonction des viaducs de la ligne C et de la ligne B pour les lignes de métro sud-est de Toulouse.
Alors effectivement, simplement c'est ce chantier qui est quand même un chantier gigantesque, exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a un précédent comme ceci, mais plus de 20 km de tunnel. C'est un chantier qui est à l'heure. Je voulais le
c'est
signaler.
Ça la bonne nouvelle, c'est que c'est la bonne nouvelle. Suit son cours.
Il n'y a pas de retard, ça suit son cours normalement, et qui est dans les clous sur le plan financier. C'est-à-dire que pour le moment, les objectifs sont tenus. Alors c'est vrai que cette jonction-là, ligne B, ligne C avec ces viaducs, c'est un peu symbolique. C'est la jonction, c'est une étape fondamentale de ce projet, et ça méritait d'être célébré. Donc c'est vrai que ce chantier du métro est un chantier qui changera quand même la ville est Toulousains. Les Toulousains sont patients. Il y a des travaux en ville. Je crois qu'il y a 40 prises de travaux sur le territoire. C'est beaucoup, mais ça se passe en temps et en heure.
Alors la première information, bon, on l'a subi un peu, on l'a subi tous les citoyens, les élus, là, cette taxe relevée à 20% par Donald Trump concernant les exportations européennes vers les États-Unis. Est-ce qu'il y a des inquiétudes, bon, évidemment pour le secteur aéronautique, ça a été dit dans le flash, mais même au niveau de la métropole pour l'emploi, par exemple.
Je pense que l'inquiétude vient de la turbulence. La turbulence d'un monde, qui est une turbulence généralisée, inquiète, et c'est normal, et je pense qu'il y a une certaine raison de l'être. Ceci dit, attendons de voir comment les réactions vont se faire. Je pense que l'élément positif, c'est que l'Europe est au-devant de ses responsabilités, et je formule des vœux pour que l'Europe, pour que notre pays, puissent affirmer leur indépendance, pas seulement militaire, mais aussi technologique, aussi en matière de services vis-à-vis des États-Unis. Et c'est une étape assez fondamentale de l'histoire de ce monde qui est en train de se jouer malgré tout.
Mais merci pour ces réactions à l'actualité métropolitaine. Nous revenons tout de suite au sujet principal de ce numéro, les aménagements tactiques du Grand Parc Canal.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec François Chollet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole pour l'écologie, le développement durable et la transition énergétique. Les aménagements tactiques, donc, qu'est-ce que c'est que cette expression? Qu'est-ce qu'elle recouvre et qu'est-ce qui les rend obligatoires au sein de ce projet Grand Parc Canal?
Alors, les aménagements tactiques, ce sont des aménagements qui ne sont pas forcément définitifs. Je vous donne un exemple. Premier exemple, c'est la piste cyclable que cet hiver nous avons développée Porte de l'Embouchure. C'était un aménagement tactique. C'était une expérimentation. Nous avons vu qu'elle n'était pas concluante et nous sommes revenus en arrière. Donc, elle n'a pas été pérennisée. A contrario, deuxième aménagement tactique, vous avez la piste cyclable qui se situe boulevard des Minimes, qui, elle, est différente, qui épaissit considérablement le canal et dont les conséquences sur la circulation sont moindres. Donc, celle-ci sera peut-être pérennisée si ces conséquences sont... Les aménagements tactiques, ils permettent de tester l'usage. Et donc, l'idée, sur les points que nous allons détailler, c'est de réaliser des aménagements qui sont possiblement transitoires, avec des installations légères, une gamme de mobilier sur mesure, réutilisable à court terme, sans intervention lourde en matière de travaux. Et surtout aussi, j'allais dire, en co-construction avec les usagers, c'est un point important que nous avons souhaité. Il y a eu au cours des phases de concertation sur ce projet, depuis 3 ans maintenant, une participation citoyenne considérable, et il était normal que les citoyens puissent être associés à la construction du mobilier, et c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant.
Deux adjectifs à retenir, il y a tactique bien sûr au départ, mais il y a aussi transitoire, et puis participatif.
Participatif, oui.
Vous avez évoqué des mobiliers, et il est question aussi de l'installation d'un mobilier tactique du Grand Parc Canal. De quoi il s'agit là?
Un mobilier tactique du Grand Parc Canal, ce sont des bancs, ce sont des mobiliers de détente, ce sont aussi des pontons, ce sont aussi des belvédères, en particulier sur la partie nord de Toulouse, qui sont conçus dans le même modèle architectural, donc avec
une identité architecturale, ou en tout cas en apparence.
Voilà, une identité qui sera,
sans doute aussi,
en matière de matériaux et puis de design aussi, sur l'ensemble du territoire, qui seront implantés, mais qui pourront être déplacés et réutilisés ailleurs. Si par exemple, l'usage ne se vérifie pas sur un espace, on pourra déplacer les mobiliers.
Ils sont conçus sur mesure en plus, hein, vraiment alors dans les lieux où ils vont être installés.
Alors, ils sont construits à deux endroits. Ils sont construits d'abord sur le port de l'Embouchure, où il y a un hangar de VNF qui a été transformé en atelier de construction. Donc, ils sont construits sur place, les matériaux sont amenés là. Et puis, ils sont construits aussi dans un dispositif mobile qui se déplace le long du canal et sur lequel interviennent les personnes qui assure cette construction et interviendront les habitants également.
Donc des bancs, des radeaux, j'ai vu aussi, il y a des banquettes, des gradins éventuellement qui
pourraient
être installés à certains endroits au bord des canaux, tout ça en matériaux naturels. Hein,
tout ça en matériaux naturels et tout ça, j'allais dire, de façon concertée avec les habitants, avec les élus aussi des communes au sein de la métropole, de façon à ce que finalement, à répondre à un certain désir, à répondre à une certaine réalité. Et c'est vrai que c'est souvent difficile de prévoir les usages et de prévoir la pertinence complète d'un site. Et donc, cette forme de souplesse, finalement, va nous permettre de nous adapter.
Les lieux qui vont faire l'objet d'aménagements techniques, ce sont les 8 qu'on a déjà cités ou il y en a d'autres?
Non, ce sont les 8 que vous avez cités. En fait, ils se regroupent en 3 gros pôles, si on veut être synthétique. Le premier, c'est ce qui concerne le port de l'Embouchure, le bassin des filtres qui sont à côté. Donc, port de l'Embouchure, il y a plantation d'arbres en front de rocade, il y a la suppression du parking et la création d'un espace vert avec du mobilier dans l'axe du bassin pour admirer le point de vue sur le bas-relief de Lucas. Ensuite, au bassin des filtres qui est juste à côté, il y a la création de 2 entrées avec des vues sur les bassins. Les passants, les promeneurs pourront avoir un visuel qu'on n'a pas actuellement très très bien sur là-dessus. Deuxième point, c'est qui concerne Place Olin-Châtelet, Port-Saint-Sauveur, la promenade et la prairie Griffoul-Dorval et les cales de Radouble. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est 2 km de promenade, mais avec la création de cette promenade, des croûtages, la plantation, la pose de mobilier, la création de la promenade aussi sur la rive droite, je disais, sur Griffoul-Dorval, avec la suppression du parking, la plantation aussi, la pose de mobilier. Et puis, un élément important, c'est l'ouverture des cales de Radoub, qui sont à la pointe avec cette capacité donc de VNF, cette capacité que nous aurons désormais de voir, d'avoir une vue sur ces cales de Radoub, là où sont réparés les bateaux qui méritent de l'être. Donc ça, c'est le pôle Est, j'allais dire, qui présente une certaine homogénéité et qui est assez compact. Et puis ensuite, sur la partie Nord, et je pense qu'il faut les citer, donc il y aura sur l'écluse de Saint-Jory du mobilier, un ponton au lac de Pontal à l'Espinasse, une cabane d'observation de la nature au lac du Bocage à Fenouillet, du mobilier sur l'écluse de Fenouillet, et puis un marquage au sol, une identité graphique qui sera déroulée sur cette partie nord. Et puis donc, ce qu'on peut dire aussi, puisque vous l'avez signalé et qu'on le voit sur le site Je participe, sur lequel d'ailleurs on peut s'inscrire, il y a deux sites sur lesquels les personnes, les citoyens pourront venir participer à cette co-construction. C'est ce qu'on appelle la fabrique du Grand Parc, qui est un point fixe, et c'est ce dont je vous parlais, c'est ce hangar que VNF a mis à notre disposition, avec le mercredi 30 avril, vendredi 13 juin, samedi 5 juillet, un atelier de co-construction. Et donc, inscrivez-vous sur Je participe. Puis, je dis aussi, cet atelier mobile qui va nous permettre et va permettre de participer à la disposition de ce mobilier sur la partie nord en particulier de Toulouse. Donc samedi 17 mai de 9h à 13h avec un rendez-vous à l'écluse de Fenouillet, 20 septembre, 11 octobre pour le port de l'embouchure et puis le boulevard Griffoul-Dorval au pied de la passerelle des Soupirs. Donc voilà quel est le programme qui est prévu pour cette année 2025 et déjà au début de l'été on aura une bonne vision de ce que sont ces aménagements et puis avec les plantations qui seront faites en fin d'année, on peut dire qu'en fin 2025, nous aurons une vision un peu complète.
Donc là, on a bien tout l'aspect participatif. Et ce que je retiens aussi, c'est que le critère esthétique rentre vraiment en ligne de compte concernant non seulement les mobiliers eux-mêmes, mais aussi la manière dont ils vont s'insérer dans le décor et dans le paysage au bord des canaux.
Absolument. Et j'allais dire, au-delà des mobiliers, on a une grosse question, par exemple, sur la couleur de la piste cyclable du parvis de Brienne, proche du parvis de Brienne. Nous avons décidé que les pistes cyclables seraient rouges pour pouvoir les identifier. Et là, pour des raisons esthétiques, l'architecte des bâtiments de France nous a demandé de ne pas la faire rouge. Et donc, il y aura une exception au bord du canal. Les pistes cyclables, pour des raisons esthétiques et patrimoniales, seront ocre, un peu différentes des autres pistes cyclables.
Ce qui rappellera la pierre, la brique toulousaine.
Un tout petit peu. Il y a une logique esthétique, une logique patrimoniale qui a prévalu dans cette conception.
Et vous me disiez avant qu'on commence l'émission que les gens, depuis le début, s'impliquent beaucoup dans tout ce que vous leur proposez de chantiers participatifs ou aussi de réunions de concertation.
Alors c'est vrai qu'on a eu, je ne saurais pas le dire combien, mais on a eu beaucoup de réunions de concertation pendant les trois premières années de ce projet. Moi je retiens d'abord qu'il y a eu du monde. Il y a eu des habitués, mais pas que. Il y a des gens qui sont venus, que ce monde a grossi, qu'il y a... Je pense que les Toulousains aiment le canal, c'est clair.
C'est un lieu de promenade magnifique, d'abord.
Et je pense qu'ils sont prêts à donner pour lui. Et il me semble qu'on verra ce que donnent ces chantiers participatifs, mais je m'attends à ce que la participation soit de bonne qualité aussi et numériquement importante. Je rajouterais que nous avons proposé aux écoles qui jalonnent le canal, de participer aussi. Certaines l'ont demandé spontanément. Donc les enfants seront associés également à cette initiative.
Donc il va y avoir plusieurs chantiers participatifs au printemps et même jusqu'au début de l'été. Je vais rappeler un peu les dates, les lieux et les thèmes. Donc le mercredi 30 avril, c'est bientôt, de 15h à 19h à la fabrique du Grand Canal. L'adresse, c'est 115 rue des Amidonniers à Toulouse. Un atelier pour construire les mobiliers aux côtés des artisans, le samedi 17 mai de 9h à 11h et de 11h à 13h à l'écluse de Fenouillet. Il y aura un atelier pour installer le mobilier et peindre des décors. Et puis le vendredi 13 juin de 15h à 19h, de nouveau à la fabrique du Grand Parc Canal au 115 rue des Amidonniers à Toulouse. Un atelier pour construire encore des mobiliers aux côtés des artisans. Eh bien, voilà de quoi s'impliquer. Je suis persuadé que parmi les gens qui nous écoutent, certains seront intéressés. Le moment est venu de conclure cette émission. Merci beaucoup, François Chollet, d'en avoir été l'invité. Et merci de nous avoir présenté les aménagements tactiques du Grand Parc Canal. Vous pouvez aussi en trouver une présentation et une description détaillée sur le site web de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr. C'est aussi sur ce même site qu'il faut vous inscrire si vous souhaitez participer aux ateliers. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bon week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.